Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter l'aïoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Eh ben bonjour aux auditeurs de Radio Galère, vous êtes bien en 2015 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, La Gueule Ouverte. Et c'est déjà notre 24e émission. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités de marque équitable, Annick et Anne. Alors bonjour à vous deux.
Bonjour.
Eh ben c'est Annick et Anne, d'Artisans du Monde Marseille. Nous allons bien sûr parler donc du commerce équitable au sens large. Et pour commencer, je vais quand même rappeler qu'Artisans du Monde fait partie des membres fondateurs d'Attaque depuis le début de l'aventure Attaque en 1998. Alors une première question, pourquoi membres fondateurs d'Attaque ?
Eh bien, un autre monde est possible, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup à Attaque, mais aussi à Artisans du Monde. On dit aussi chez nous, autres échanges, autre monde. Artisans du Monde s'est construit sur un principe de solidarité pour aider les petits producteurs des pays du Sud à vivre non pas de la charité, mais dignement de leur travail, c'est-à-dire avec une juste rémunération pour leur production et au travers d'une une relation de partenariat et non pas une relation de simple client-fournisseur. Artisans du Monde a eu tout de suite l'ambition de changer l'ensemble du commerce international, c'est-à-dire que tout le commerce devienne commerce équitable.
Alors, bon, assez rapidement, d'où ça vient Artisans du Monde ? Vous êtes organisé comment ? Vous êtes un parti politique, par exemple ? Vous appelez à voter
Pas du tout. Artisans du Monde est né en 1974, donc il y a 40 ans, grâce à la mobilisation de citoyens suite à un appel de l'abbé Pierre pour venir en aide à la population du Bangladesh qui était affectée à ce moment-là par des inondations de très grande ampleur. Artisans du Monde est aussi la déclinaison française de ce qui existait déjà en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas avec Oxfam, et de la mouvance issue dans les années 60 du slogan « Trade, not aid », donc « du commerce, pas de l'aide ». Nous sommes donc un réseau de boutiques associatives, présentes dans toute la France et fédérées au niveau national. Chaque magasin est un membre actif ou relais de cette fédération et participe à ce titre à l'Assemblée Générale annuelle. Bon. Nous avons également une centrale d'achat en commerce équitable, Solidar Monde, qui est une entreprise, mais une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
D'accord. Bon, donc, vous êtes dans le commerce équitable. C'est bien. Mais moi, qui n'y connais pas grand-chose, quand j'entends commerce équitable, j'ai l'impression que, là, vous me parlez d'un réseau de boutiques associatives, c'est super. Mais quand je vais, par exemple, à Carrefour Merlan, une fois par mois, pour faire mes commissions, pour certaines choses, bon, il y a aussi des rayons de commerce équitable. Donc, on a l'impression que c'est relativement flou, que tout le monde y fait son commerce et que c'est quand même plus ou moins récupéré par les grands groupes. Quoi. Alors, c'est quoi le commerce équitable?
Alors, le commerce équitable s'est construit peu à peu, pas à pas. Il a pu paraître flou ou récupéré à certains moments, mais de nombreuses organisations nationales et internationales ont vu le jour dès les années 90 et ont contribué à structurer ce mouvement. Par exemple, en 98, Artisans du Monde a participé avec d'autres acteurs du commerce équitable, importateurs, distributeurs, organismes de labellisation, à la création d'une plateforme française pour le commerce équitable. C'est elle qui organise tous les ans la quinzaine du commerce équitable. Ces organisations se sont retrouvées autour d'une première définition commune. Et dans les années 2000, plusieurs textes importants ont vu le jour, notamment un accord AFNOR et une loi pour tenter de limiter l'utilisation abusive du terme commerce équitable. Alors, je vais vous donner la définition du commerce équitable. Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète.
D'accord. Bon, donc, moi, je reviens sur cette histoire de dévoiement du commerce équitable, notamment par la grande distribution. Par exemple, je pense à Max Avelard. Mon impression, quand même, c'est que c'est pour engranger encore un peu plus de profits. C'est un créneau qui est juteux. Et puis, pourquoi pas là, comme le bio également. Hein. Alors, Artisans du Monde, il se situe comment par rapport à ça?
Alors, c'est un peu long quand même d'expliquer le cas Max Avelard. Mais c'est vrai que pour nous, cette organisation fait fausse route actuellement. Mais il faut quand même reconnaître qu'elle a beaucoup contribué à faire connaître le commerce équitable, qui était vraiment dans une petite niche. Côté Artisans du Monde, l'Assemblée générale souveraine a décidé en 2005, en opposition frontale avec la direction de Solidar Monde, notre centrale d'importation, que les produits d'Artisans du Monde n'avaient rien à faire dans les grandes surfaces, que c'était en contradiction avec nos valeurs et que ne pas faire entrer nos produits en grande surface était aussi un moyen de préserver notre liberté, celle de continuer à faire de l'éducation et apporter des campagnes de mobilisation.
D'accord. Bon, c'est un peu plus clair, là. Ah. Alors, une autre question sur un autre paramètre qui me vient en parlant du commerce équitable, c'est que on est à Marseille, dans une ville relativement sinistrée du point de vue social, mais aussi dans une Europe ultralibérale qui elle-même est sinistrée. Bon, on va pas revenir sur la Grèce, le Portugal, enfin on en parle suffisamment régulièrement dans nos émissions, mais moi est-ce que promouvoir par exemple le commerce équitable c'est pas un peu élitiste, quoi, parce que il y a d'abord la satisfaction de besoins immédiats, c'est déjà difficile pour des dizaines de millions de gens de pouvoir les satisfaire. Alors, le commerce équitable, c'est... Bon, vraiment, il faut pouvoir se l'offrir. Alors, c'est quoi la réponse d'Artisans du Monde par rapport à ça, quoi ?
Eh bien, c'est que même avec un pouvoir d'achat limité, le consommateur a un pouvoir d'action. Et donc, il peut privilégier une consommation responsable. Il faut absolument dire et redire qu'il est urgent de consommer moins, mais mieux, car les prix toujours plus bas retombent toujours sur les plus faibles. Donc à chacun de faire ce qu'il peut, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Mais le commerce équitable coûte forcément plus cher, puisqu'il garantit un juste prix aux producteurs, et qu'en plus il prévoit un préfinancement de la production.
Moi, je vais vous titiller un peu. J'ai l'impression que c'est un peu quand même la bonne conscience de l'Occident, quoi. Hein. Donc après la colonisation, on s'est retiré. Bon, on continue à coloniser, mais de loin. On envoie nos armées. Puis là, c'est comme si c'était une nouvelle forme de charité vis-à-vis des pays du Sud. Mais je me trompe certainement. Vous allez me convaincre du contraire.
Mais le commerce équitable n'est pas une charité, c'est un mode d'action. On peut espérer que grâce à cette crise mondiale, les citoyens vont commencer à prendre conscience de notre interdépendance avec les pays du Sud et de l'urgence d'un autre partage et donc de la nécessité de s'engager pour remettre de l'équité et de l'humain au cœur des échanges.
Bon. Alors, on parle de produits équitables, je comprends à peu près, que des gens qui sont dans le Sud, à qui on offre des débouchés, qui sont rémunérés et réellement rémunérés pour le travail qu'ils font. Maintenant, ces produits viennent jusqu'ici, donc il y a toute une filière qui est mise en place. Il n'y a pas seulement le produit lui-même, bon, il y a sa transformation, il y a aussi le transport, il y a aussi jusque dans le linéaire, hein, ou sur vos étagères dans votre boutique du boulevard de la Libération. Donc, est-ce que, par exemple, des choses comme la part transport est prise en compte dans cette équitabilité du produit ?
Alors, la part transport, c'est... Vous nous posez des questions dures, là, c'est pas ? Parce que la part transport, on y peut pas grand-chose. C'est quand même l'international qui régit ça. Alors, il est certain que nos produits arrivent par bateau, ce qui est quand même un peu moins polluant, mais qu'on s'est rendu compte, avec les études qui ont été faites, que la plus grande pollution... c'est le transport dans nos propres pays, c'est-à-dire par les camions sur les routes, alors qu'il pourrait y avoir du ferroutage, etc. Et ce n'est pas nous qui pouvons changer ce genre de choses. On peut le demander, mais on n'a pas les possibilités de mettre en pratique ce genre de transport.
D'accord. Bon, donc c'est... vous avez des progrès à faire encore. Hein,
absolument, parce que moi, on en est tout à fait conscient.
D'accord. Alors, bon, le commerce équitable, c'est bien, mais donc ça permet à des gens dans le Sud de travailler, d'avoir une rémunération, de vivre, quoi. Hein, mais est-ce que, bon, pour nous, par exemple, une organisation comme ATTAC, qui avons une vision mondialiste et même altermondialiste, donc une solution globale à des problèmes locaux, est-ce que ça peut constituer une alternative à la réduction des inégalités, de la pauvreté, ou c'est juste la part du colibri, comme dirait notre ami, là ?
Un peu plus.
Le commerce équitable a un impact certain sur les producteurs du Sud et sur les familles. En termes de revenus, bien sûr, puisque un juste prix est garanti aux producteurs. Mais ce qui revient souvent quand on parle avec eux, ce qui les aide vraiment, c'est d'abord le fait que le partenariat soit durable, le fait qu'on travaille ensemble sur la durée. C'est un des critères du commerce équitable. Et deux, le préfinancement de la commande, ou à tout le moins le paiement comptant à la livraison. C'est ça qui leur apporte de la sécurité. Et on voit bien actuellement que certains de nos producteurs commencent à être touchés par les dérèglements du climat, et que grâce à ce partenariat, ils ont des ressources pour trouver et mettre en œuvre des solutions qui leur permettent de s'adapter à ces changements, de trouver des solutions. Et puis d'autre part, au travers de l'éducation et du plaidoyer, les organisations de commerce équitable, dont Artisans du Monde, portent la défense des droits sociaux et environnementaux des producteurs.
Bon, alors les années passent et puis finalement beaucoup de choses. Vous essayez de faire ce que vous pouvez, mais en haut et ailleurs, ils font plutôt ce qu'ils veulent que ce qu'ils peuvent. Et donc, on en est maintenant à spéculer sur le cours des matières premières, parce que ça rapporte, surtout les matières premières agricoles, ça aggrave les dépendances alimentaires. On voit le phénomène de l'accaparement des terres, où il y a des sociétés multinationales ou des pays qui achètent carrément des surfaces agricoles, l'équivalent d'un pays comme la Belgique. Dans le même temps, on a des accords commerciaux désastreux. Bon, par exemple, on parle du TAFTA, hein, donc le traité transatlantique, mais du CETA, mais il y a des accords bilatéraux avec les pays du Sud et l'Europe ou les États-Unis. On peut se demander si finalement, là, quel est l'avenir du commerce équitable, parce que finalement, à chaque fois, c'est un coup dans ce que vous faites, quoi.
Ben ça, c'est sûr. Ces accords de libre-échange ne seront pas bons du tout pour le commerce équitable, et c'est pour ça qu'on est notamment Artisans du Monde, engagés complètement dans la lutte contre ces accords-là et qui vont complètement à l'encontre de nos valeurs. Nous, ce qu'on prône, c'est la défense, la promotion d'une agriculture paysanne respectueuse de l'homme et de l'environnement. Donc, c'est vrai qu'on se demande comment tout ça va tourner.
Bon, je commence à comprendre un peu mieux. On va se faire une petite pause musicale. On reviendra pour discuter un peu plus de ça dans la deuxième partie de l'émission. Alors, je vous propose de nous détendre un peu les neurones en écoutant une chanson de Donny Elwood. Donny Elwood, je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Non. Ça va vous déstresser un peu. Donny Elwood, c'est un chanteur camerounais qui est d'origine pygmée, qui est un genre de Brassens. Francis Bebé, donc, qui est un autre chanteur camerounais, qui fait des chansons à penser plutôt qu'à danser. Une sorte de Cavroche des faubourgs de Yaoundé, et on va l'écouter, ça s'appelle « Cousin militaire ».
Ah, waouh ! Un sacré cousinage.
Heureusement que j'ai mon cousin militaire, oh, je serai déjà au cimetière, à 2 mètres sous terre, pauvre cadavre, simple squelette, en train de sourire comme tous les squelettes de la terre. Qui n'arrête pas de sourire, le sourire de la mort, mort de misère, misère des hommes pauvres macabres. On m'appelle Monsieur Galère, on m'appelle Tonton Misère. Je vis dans un quartier populaire et nous sommes de vrais prolétaires. Insuffisance alimentaire, vestimentaire, monétaire, nous sommes de vrais prolétaires et nous sommes majoritaires sur cette terre de misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il touche son salaire, me donne mon argent de bière et moi je fonce chez ma rivière. Toute la nuit on s'envoie en l'air. Ça c'est tout à fait prioritaire. Chez nous les prolétaires, la bière et les rombières. Car on n'a rien d'autre à faire que de s'envoyer en l'air avec nos mégères, faire des héritières et des héritiers de la misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il s'en va en guerre, là-bas vers la frontière, moi je fais des prières. Moi je fais des paternoster. Une mauvaise guerre, une guerre frontalière, une guerre incendiaire, une guerre meurtrière, une guerre suicidaire. Heureusement que c'est un vaillant militaire. Quand il revient de guerre, me garde des pommes de terre, des bouts de pain rassis, de la sardine à l'huile, quelques kilos de riz, c'est de ça que je me nourris. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. J'ai pourtant fait le cours élémentaire, je sais lire, je sais compter. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Je peux même réciter le corbeau et le renard. Mais où est donc Ornicar? Je maîtrise même la grammaire. Bijoux, caillou, joujou, palcal, carnaval. Faites quelque chose pour moi, mes frères. Je veux pas mourir dans la misère. Je veux pas finir dans la galère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. 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 Heureusement que j'ai mon cousin militaire.
Alors, nous voici revenus pour la deuxième partie de cette émission consacrée au commerce équitable, avec pour inviter Annick et Anne d'Artisans du Monde Marseille. Donc, on va continuer avec quelques questions. Vous connaissez les positions d'attaque sur les paradis fiscaux, la finance, le capitalisme, sur le devenir de la planète. Et puisque vous en êtes un des membres fondateurs, moi j'aimerais savoir comment vous vous situez, vous, artisans du monde, par rapport au modèle économique dominant.
Mais artisans du monde a un positionnement résolument politique. Nous pensons que le commerce équitable ne doit pas être l'exception, mais la règle pour tous, et que donc il faut changer les règles du commerce international, qu'il faut s'attaquer aux causes et pas seulement aux conséquences des inégalités mondiales, que le commerce doit être un outil de conquête, de respect et de mise en œuvre des droits humains. C'est pour cela que Artisans du Monde est membre de plusieurs organisations qui vont dans ce sens, ATTAC bien sûr, mais aussi le CRID, le collectif pour la transition citoyenne, etc., la plateforme des ONG pour la Palestine. Donc nous sommes engagés contre l'ultralibéralisme, contre les accords de libre-échange, comme on a dit, et aussi fortement dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Bref, vous êtes quasiment fréquentable, quoi. Donc le bio, on va parler du bio. Alors le bio, c'est vraiment à la mode. Cours Julien, le mercredi matin, bon, on voit de plus en plus fleurir des épiceries bio, des marchés paysans, justement. Il y a les AMAP. Mais pour le commerce équitable, est-ce qu'il y a aussi du bio? Et puis, par exemple, Artisans du Monde, vous faites du bio, vous?
Eh oui, les produits alimentaires d'Artisans du Monde sont de grande qualité et ils ont, parce qu'ils sont issus de l'agroécologie et des savoir-faire traditionnels de nos producteurs. Ce sont des produits de qualité biologique et beaucoup d'entre eux, 65%, sont certifiés bio. Ceux qui ne le sont pas, c'est pour des raisons de coût de certification. Quand on travaille avec les plus petits, c'est très difficile de leur demander de payer des frais de certification parce qu'elles coûtent cher. On peut trouver dans les boutiques des produits bio et équitables. Et au démarrage, on a eu quand même quelques problèmes parce que les produits équitables, eh bien, ils étaient très rarement, les produits bio, ils étaient très rarement équitables. Donc voilà, il a fallu faire un réajustement aussi à ce niveau-là.
D'accord.
Ce qui signifie que les produits sont bons pour tout le monde, pour le consommateur, pour le producteur et pour la planète. C'est ce qui nous importe à nous. Hein. Et c'est pas, on ne veut pas enrichir les multinationales.
Bon, très bien. Alors, il y a quand même un truc qui me dérange, c'est que, bon, par exemple, on va prendre une région comme la région PACA, disparaît chaque jour des paysans, au point qu'il n'y a quasiment plus d'agriculture paysanne en PACA, pour les causes de spéculation immobilière, et alors qu'il y a des jeunes qui voudraient s'installer, qui ne peuvent plus le faire. Vous soutenez les paysans du Sud, mais qu'est-ce que vous faites pour développer les filières locales? Bon, je pense par exemple aux ex-Fralib, donc, qui ont créé cette coopérative Scoptei, qui donc, eux aussi, bon, travaillent, alors notamment, ils redéveloppent des filières qui n'existaient pas en faisant de la menthe, en faisant du tilleul et en faisant travailler des gens qui ça s'était perdu. Donc, et ils font aussi des bio. Pour moi, c'est un exemple emblématique de ce vers quoi il faudrait faire. On est dans du circuit court, local, dans du bio. Et... mais le commerce équitable, il est loin, là. Il est de l'autre côté. Alors,
on est tout à fait d'accord pour la relocalisation. Mais nous sommes une organisation de solidarité internationale. Donc, à chacun son job. Ceci dit, les mécanismes de pression, de domination économique auxquels sont confrontés les paysans du Nord et du Sud, d'ici et de là-bas, ce sont les mêmes. Et ils trouvent leur origine dans les mêmes choix politiques. Donc Artisans du Monde soutient les agricultures paysannes partout et milite pour un changement global des modes de production et de consommation, tant au Sud qu'au Nord. Mais Artisans du Monde a expérimenté depuis plusieurs années maintenant le commerce équitable, qu'on appelle commerce équitable Nord-Nord, et a changé ses statuts en 2010 pour permettre à ces associations de faire entrer justement les produits locaux dans leurs boutiques, dans leurs rayons. Et il y a même des partenariats qui ont été construits au niveau national pour favoriser ce développement, notamment avec le réseau Miramap, le réseau Cocagne, les Biocop. Nous, chez nous, à Marseille, dans notre boutique de Marseille, nous avons quelques produits locaux, du miel, du petit épeautre, de la spiruline. Les infusions de Fralib, on aimerait bien les avoir, justement, c'est en question dans l'association. Notre problème, c'est qu'on a une toute petite boutique et qu'on ne peut pas augmenter le nombre de produits énormément.
Bon, et on va revenir aux produits du Sud. Faisant travailler, paradoxalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression de les rendre finalement encore plus dépendants, puisque vous les rendez captifs des marchés du Nord, et au lieu d'essayer de développer un commerce en Sud-Sud, tout simplement, quoi.
Le commerce équitable pratiqué par Artisans du Monde s'inscrit quand même dans une dynamique de partenariat. Hein. C'est un partenariat avec les organisations de producteurs. Et nous voulons construire une alternative au commerce conventionnel. Et alors, ces partenariats, à la fois, on soutient leur possibilité de travailler dans leur propre pays. Et le travail que l'on fait ici avec les pays du Nord, ça leur permet d'ouvrir soit sur le marché local, soit d'ouvrir, je pense au mangue séché par exemple, qui était uniquement un travail nord-sud, et bien sud-nord plutôt, et bien maintenant ils ont leur propre outil pour mettre tout en sachet, pour avoir la transformation chez eux et pour pouvoir vendre sur le marché. D'accord. Vous voyez, ça c'est un exemple, hein, que. C'est pour dire que pour nous, c'est important, et c'est important que se développe dans tous ces pays les marchés sud-sud. Et ça se développe de plus en plus, en particulier en Amérique du Sud, où souvent, les produits du commerce équitable sont vendus sur les marchés du Sud.
Alors, bon, ouais, vous faites bien de parler de cette histoire de la filière complète, c'est-à-dire de pouvoir aller depuis le processus de production jusqu'au produit fini. Mais bon, on prend les deux produits phares donc, du commerce équitable, le café et le cacao. Bon, ceux-là, ils sont transformés en Europe. Et c'est finalement en Europe, c'est sur cette part du produit en tout cas, qu'il y a le plus de bénéfices et de valeur ajoutée qui est faite. Et finalement, le producteur, d'accord, il est peut-être rémunéré, mais il l'est beaucoup moins que si tout était transformé sur place. Alors, là-dessus, qu'est-ce que...
Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le café est transformé en Europe et particulièrement, surtout, torréfié en Europe. Et torréfié en Europe parce que, au démarrage, on a eu des problèmes, c'est que la torréfaction qui était faite ne correspondait jamais au goût des consommateurs que nous étions. Et c'est eux-mêmes qui nous ont dit, écoutez, faites votre torréfaction et ne nous enquiquinez plus. Parce que on s'était jamais exactement le goût italien, le goût ceci, le goût cela. Ils ont dit, on fait le café. Prenez les graines, mais faites votre torréfaction sur
vous-même. Ils ne veulent pas travailler, alors ?
Non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler.
Ah, bon.
C'est qu'ils avaient une... Enfin, leur façon de faire ne correspondait pas avec le goût des Occidentaux. Ils ont préféré que les Occidentaux gèrent leurs produits pour que le goût soit et que le café se vende très, très bien.
Eh bien, mais alors, est-ce que maintenant, on ne pourrait pas, là-bas, sur place, les aider à installer donc un processus de transformation, et puis qu'on envoie quand même un occidental qui, lui, connaît le goût de ses frères et sœurs et serait sur place, tout simplement. Mais ça permettrait quand même de générer un certain nombre d'emplois et de débouchés.
Mais vous savez, il y a quand même quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, là. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est les matières premières. Et les pays du Nord, qu'est-ce qu'ils veulent ? Des matières premières. Les matières transformées, ils n'aiment pas tellement ça. Et les barrières douanières sur les matières transformées sont énormes. Et c'est souvent qu'ils gagnent mieux en envoyant leurs matières premières, parce que l'Europe est demandeur, plus que les produits transformés. Et c'est pareil pour le cacao. Le cacao, on les a aidés à mettre en place des usines, en particulier en Bolivie, où ils font leur cacao pour eux. Mais si on vendait les tablettes de cacao ici, elles seraient extrêmement chères parce qu'il y a les barrières douanières. Donc c'est mieux pour eux d'envoyer leurs matières premières et de faire leur cacao chez eux pour eux.
Là-dessus, je ne suis pas du tout convaincu, mais enfin bon,
ceci
on va
dit,
pas...
Ceci dit, dans le cas du cacao, au départ, on faisait venir que les fèves, enfin les fèves, et elles étaient traitées complètement en Europe. Et maintenant, on fait... les choses ont évolué, justement, parce qu'on essaye de toujours aller vers l'autonomisation des producteurs. Et maintenant, ce qu'on importe, c'est plus les fèves de cacao, mais la pâte et le beurre de cacao. Donc, on peut espérer que dans l'avenir, ça évoluera encore. Et puis là, on a parlé de ces deux produits-là, mais il y en a plein, quasiment tous les autres, ils sont transformés sur place par les coopératives de producteurs.
Bon, je vais être gentil, alors, mais presque convaincu. Alors, si vous aviez un bouquin à conseiller, par exemple, sur le commerce équitable, ce serait quoi ?
Eh bien...
S'il y en a, hein ?
Oui, il s'appelle Commerce équitable. Il a été édité par Attac, d'ailleurs. Il s'appelle Commerce équitable, produire, vendre et consommer autrement. Il a été écrit par Elisabetta Bucolo, Thierry Bruguevin, Thomas Coutreau et Anne Olivier.
Ah bah dis donc, du beau monde, hein ?
Voilà.
D'accord, donc c'est celui-là qu'il faudrait conseiller. Eh bien alors, lisez-le alors. Alors... vous allez nous dire comment vous contacter, si vous avez un site, si vous avez une adresse mail, et puis aussi peut-être sur le mot de la fin, puisque là on va arriver à la fin de cette deuxième partie, vous avez des choses particulières, je ne sais pas moi, comment, puisque vous parlez d'un réseau de boutiques, il faut peut-être des bénévoles ou des choses comme ça, bon, vite fait.
Bien sûr, on a un site, le site du mouvement Artisans du Monde, donc www.artisansdumonde.org. Et puis, pour nous contacter, nous, à Marseille, l'adresse mail, c'est marseille-8adm@yahoo.com. Et puis, oui, bien sûr, à notre boutique, il n'y a que des bénévoles. Et on a toujours besoin de bras pour faire tout ce qu'il y a à faire, mener toutes les luttes qu'il y a à mener.
Très bien, merci. Bon, donc... voilà, hein, c'est une fin provisoire de cette deuxième partie. Puis moi, je vous invite à contacter les gens de Radio Galère si vous voulez faire votre propre émission, peut-être que ça pourrait être intéressant une fois de temps en temps. Donc la dernière partie, ce sera l'agenda d'Attaque Marseille au mois d'octobre. Avant, on va s'écouter une chanson qui s'appelle « État des lieux », qui est interprétée par Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers, le Stéphanois au gros biscotto, comme à Attaque. Mais Bernard Lavilliers qui n'hésite pas non plus à jouer dans des lieux aussi divers que des prisons, des hôpitaux, des écoles, des lieux d'occupation. Bref, un petit gars bien baraqué comme on les aime. On écoute Nanar, le Stéphanois.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? Je vois l'énorme appétit de matière, cette montagne de déchets. Des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition, on va payer. Je vois des océans, couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature assure, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude.
On arrive à la dernière partie de l'émission avec l'agenda d'Attaque Marseille en octobre. Alors, qu'est-ce que nous a concocté Attaque ce mois-ci ?
Alors là, tout de suite, dans une heure, il y a donc le jeudi 8 octobre, il y a l'accueil de la marche européenne contre l'austérité, donc qui fait étape à Marseille, qui arrive d'Espagne et qui continue donc sur Bruxelles. Donc c'est dans une heure, donc elle est partie de Gibraltar le 1er octobre, elle rejoint d'autres marches qui, elles, sont parties de Berlin, de Londres, d'Italie, et toutes ces marches donc convergent vers le sommet européen de Bruxelles du 14 au 17 octobre.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer à Marseille ?
Eh ben, nous accueillons les marcheurs à 17h à la gare routière sur le parvis Saint-Charles. Et puis, on défilera en chanson, en musique, jusqu'au réformé. Là, il y aura plusieurs prises de parole au kiosque. Et puis, un petit concert, notamment des Fralibos. Donc, venez soutenir les marcheurs contre l'austérité. Donc, c'est dans une heure à la gare routière sur le parvis Saint-Charles.
Waouh, j'y serai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Alors, je vais parler d'un truc qui est déjà complet, mais ça fait rien, je vais le dire pour faire saliver les auditeurs de Radio Galère. Donc, Attac fait 5-6 fois par an des alter-randonnées, c'est-à-dire des balades un peu décalées le dimanche. Donc là, il y en a une qui se trouve justement dimanche 11 octobre sur le thème « Les 14-15, c'est à nous ». Donc on ira notamment sur les terres du sinistre Ravier pour dire que c'est aussi chez nous et que c'est sûrement pas chez lui. Et donc, y avait un rendez-vous qui était fixé à 9h45 à la gare de Sainte-Marthe. Donc il y a un bel itinéraire pour ceux qui s'y sont inscrits. Mais là, on a dépassé la jauge et la dose prescrite. Donc ils ne verront pas le canal de Provence. Ils ne verront pas le parc Saint-Joseph, ils ne se baladeront pas dans les cités de la Morellette, du Castellas, ils ne pique-niqueront pas dans le parc Varela et ne finiront pas à l'ombre des Bouddhas du Vallon des Tuves. C'est dommage parce que c'était gratuit et ouvert à tous, mais c'était complet, il y avait même des choses à partager et un bon coup de jaja à s'enfiler.
Bon, ben, dommage pour tous ceux qui pourront pas y être. Quoi d'autre ce mois-ci ?
Alors, plus sérieusement, et là, il y a beaucoup de place, puisque c'est une réunion publique donc, qui va se tenir le mardi 3 novembre à 18h30 dans le grand amphithéâtre de l'Université Saint-Charles. Donc là, il y a presque 600 places. Hein. Donc c'est une réunion publique où on parlera des traités de libre-échange, dont on a déjà parlé dans les deux premières parties de l'émission, et où on se posera la question de savoir si nos vies et si le climat sont à vendre. Donc il y aura du très beau monde, puisqu'elle sera animée par Suzanne Georges, qui est une économiste et qui est présidente d'honneur d'Attac France, mais aussi Maxime Combes, qui est un jeune économiste brillant, qui est membre du conseil scientifique d'Attac, de la commission écologie et société. Donc tout ça, c'est le mardi 3 novembre à 18h30 au grand amphithéâtre de l'Université Saint-Charles.
Ah ben ça va être passionnant. C'est déjà fini ?
Ben ouais, c'est déjà fini et bon, puisque c'est fini, on va s'écouter une chanson tirée du dernier album d'HK et les Saltimbanques. C'est un album qui s'appelle « Rallumeur d'étoiles ». HK et les Saltimbanques, ils sont de toutes les luttes, de tous les combats. Ils se considèrent à juste titre comme les petits cousins de Zebda. Ils ont même enregistré un titre avec les Fralib. Alors on s'écoute la chanson qui s'appelle « Dounia ».
Une fable que vous lirez peut-être. Cette terre et ce sable sont ceux de mes ancêtres. Ici même j'ai grandi au bord de ce désert, à l'ombre des bandits sous l'arbre millénaire.
Dounia, Akalalkani Dounia.
Par un vent froid, ils ont atteint ma porte. Ils voulaient entrer chez moi, ils voulaient que j'en sorte. Vous apprendrez qu'ici, cher monsieur, tout s'achète. Vous pourrez pour ce prix nous rembourser vos dettes. L'homme libre a répondu, partez sans plus attendre. Les temps sont révolus, je n'ai pas de compte à vous rendre. Le puits que vous voyez, je l'ai creusé de mes mains. Et ces mains, vous savez qu'elles ne vous doivent rien. Oh, aïe, aïe, aïe,
Dounia, Akalankani Dounia. Oh, Dounia.
crois, on sut trouver les arguments. Des soldats sous mon toit, sur ordre du président. Les villageois, mes amis, sortent un à un de leur maison. Ici même aujourd'hui va naître une révolution.
Eh ben, pour finir en beauté la gueule ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, voici notre traditionnelle devinette. Alors, qui a dit, en parlant du commerce, je cite, alors qui a dit, Anne, je m'adresse à toi, donc je cite, on peut être commerçant et avoir une morale, et même si le commerce n'est pas moral en soi, il n'y a aucune loi qui empêche les commerçants, en tant que citoyens ou en tant que chef d'entreprise, d'avoir une exigence personnelle et des comportements éthiques.
Eh ben, pas facile celle-là, mais je me lance. C'est peut-être le petit Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie, banquier d'affaires chez Rothschild, et sa loi du même nom passée au forceps grâce au 49-3. Travail du dimanche, fin du CDI, restriction des tribunaux prud'homaux, remise en question des 35 heures. C'est tout bon pour le commerce et pour l'éthique. Sa science du détricotage atteint un tel degré que son culot ravit tous les patrons voyous. Le MEDEF, les valeurs actuelles, l'adore, Pierre Gattaz l'adule. Même Manuel Valls paraît de gauche à côté de lui. Avec son sourire de jeune premier bien propre sur lui, il balance ses scuds les uns après les autres sans se départir de son sourire et de sa bonne conscience. Et même beaucoup de ceux qui font semblant d'être choqués par ce liquidateur se félicitent intérieurement de ne pas avoir à faire ce sale boulot à sa place. Alors, c'est lui ? C'est Manu ? C'est notre ministre ?
Eh non, Anne, tu n'y es pas du tout. Il s'agit de Michel-Édouard Leclerc, le PDG de l'enseigne de grande distribution. Ah, Michel-Édouard, sa fleur pond le terroir. Une enfance au petit séminaire des pères du Sacré-Cœur. Et hop, c'est parti pour une carrière pleine de bonté et de philanthropie. Côté face, c'est la défense du consommateur et de son pouvoir d'achat. Mais côté pile, un enrichissement spectaculaire et une politique sociale musclée. Ah, Michel-Édouard, qui s'est battu pour obtenir la liberté de négociation des tarifs avec les fournisseurs, finalement offerte par la loi de modernisation de l'économie, avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy. Ah, Michel-Édouard, petit coquin, proche chevalier du pauvre consommateur. Selon le magazine économique américain People with Money et sa très attendue liste des hommes d'affaires les mieux payés du monde, Leclerc aurait amassé entre les mois d'août 2014 et août 2015 la prodigieuse somme de 75 millions d'euros sonnant et trébuchant. Une hausse de quasiment 40 millions par rapport à l'année précédente. Étonnant, non ?
Étonnant, en effet, mais pas vraiment équitable. Je crois que je vais m'abonner à ce magazine, comment tu dis ? People with Money.
Oui, c'est ça. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci à Anne, à Annick d'Artisans du Monde Marseille. Merci à Sidi pour la technique. Cette émission sera rediffusée le mardi 20 octobre à 14h et notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 12 novembre à 15h et aura pour thématique la COP21 avec le beau Mathieu. Au mois prochain donc, et pour nous contacter, une seule adresse, accueil.marseille@attaque.org. Salut !
Salut !
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.